France Inter. Mathilde Munoz. Le 5-7.
Il est 6h20. Ce sont des rapports dont on vous parle chaque année, ceux sur l'état de la pauvreté en France, établis par les grandes associations d'entraide et de solidarité. Aujourd'hui, c'est le Secours catholique qui publie le sien, mais celui-ci a particulièrement retenu notre attention parce qu'au-delà du constat, il se double d'une critique des politiques menées, notamment en direction des étrangers. Bonjour Véronique Feuillet.
Bonjour.
Vous êtes la présidente du Secours catholique et c'est vous d'ailleurs qui écrivez le propos introductif de ce rapport. Alors, il laisse transparaître un agacement certain, je dirais, on sent même carrément un énervement sous votre plume.
Oui, parce qu'on a des politiques actuellement qui ne sont pas accueillantes pour les migrants, qui cherchent à les criminaliser, qui laissent des familles à la rue, des familles avec enfants, qui obligent à des situations de violence. À l'heure où nous parlons, il y a une évacuation du grand campement de la Chapelle au petit matin. Ce sont vraiment des situations intolérables. Et on voit que les étrangers sont de plus en plus condamnés à une fragilité, à une grande pauvreté. Et donc viennent frapper de plus en plus nombreux à la porte du Secours catholique. Ils sont 44% à venir nous rencontrer. Et donc on voit bien que la pauvreté les pénalise très lourdement, et notamment les familles avec les enfants.
Vous écrivez que le respect de la dignité de chacun est une exigence à sans cesse construire. Dans le discours d'Édouard Philippe hier sur l'immigration, vous avez l'impression qu'on la respecte cette exigence ?
Non, alors on a toujours la même méthode de la part du gouvernement, c'est-à-dire qu'au motif qu'il y a quelques irrégularités ou quelques fraudes, et il y en a toujours forcément dans tous les systèmes et dans toutes les classes sociales, eh bien on stigmatise une population entière, en l'occurrence ici les migrants, mais parfois ce sont les pauvres, et on prend des mesures de rétorsion. On peut en prendre une dans les mesures qui ont été annoncées, c'est la question de l'assurance maladie, de la PUMa, donc pour les demandeurs d'asile. Maintenant, un délai de carence de 3 mois va être instauré. C'est absolument absurde parce que ces gens-là arrivent, ils n'ont pas migré par plaisir, ils arrivent d'un pays en guerre, ils arrivent d'un pays où la vie est difficile, ils se sont souvent pas soignés ou mal soignés pendant des mois, le parcours migratoire a été épuisant, ils arrivent très fatigués physiquement et moralement. Et donc ils attendent déjà plusieurs mois avant de pouvoir déposer leur demande d'asile. Et au moment où ils déposent la demande d'asile, ils devraient, aujourd'hui c'est le cas, ils ont la possibilité de se soigner. Demain, ils devront attendre 3 mois de plus. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ils vont retarder leurs soins et éventuellement ils vont aller aux urgences, encombrer un peu plus les urgences. Donc c'est un très mauvais calcul en termes de finances publiques et de santé publique. Et pour les gens qui arrivent, c'est une humiliation de plus. Ils demandent l'asile, donc ils demandent la protection et on leur refuse le droit de se soigner. Donc ça fait partie des mauvaises mesures, des mesures d'affichage, mais qui sur le fond sont humiliantes pour les migrants et qui coûtent cher finalement.
Et ce que vous soulignez aussi dans votre rapport, c'est leur extrême vulnérabilité, notamment à cause de ce que vous appelez le non-droit au travail.
Oui, alors ça aussi, c'est un autre scandale. Les demandeurs d'asile et d'une manière générale, les migrants n'ont qu'une envie, c'est de contribuer à la société. On les accuse d'être des parasites, de venir profiter de nos aides. C'est absolument faux. Ils n'ont qu'une idée, c'est de travailler. Et d'ailleurs, souvent, ils travaillent avec des petits boulots, du travail au noir. Mais ils ont interdiction de travailler quand ils sont dans une procédure de demande d'asile. Et donc, on le voit, donc du coup ils sont sans ressources et c'est très pénalisant et ça retarde l'intégration.
Je vais vous citer une dernière fois, toujours dans ce propos introductif du rapport, vous écrivez « Nous pouvons affirmer que le vivre ensemble, non seulement est possible, mais qu'il se vit au quotidien dans les territoires, paisiblement ». Vraiment, ça veut dire que...
Oui, alors on a des exemples tous les jours dans nos accueils. Nous, on a nos 68 000 bénévoles qui sont très accueillants. Je regardais hier soir un petit film de la délégation de Besançon où il y a un accueil des migrants absolument formidable et où les bénévoles témoignent de ce que ça leur apporte, la façon dont ça enrichit leur vie. Et les migrants, bien sûr, disent qu'ils ont trouvé une famille. Mais on a aussi, en dehors du Secours catholique, plein de villages, plein de témoignages d'un accueil, et on voit donc que les Français, ils sont prêts à l'accueil en fait.
Donc ça veut dire qu'on a une vision parisienne politique qui instrumentalise des tensions ?
Ben ça veut dire surtout qu'on entend la petite minorité qui vocifère contre les migrants, qui est opposée à l'accueil des migrants. C'est une petite minorité de la population, mais qui se fait entendre et qu'on n'entend pas la majorité silencieuse. Et c'est vraiment une très grande majorité. Nous, on a fait un sondage extrêmement précis et on a 62 tiers de la population qui est ambivalente, qui a envie d'accueillir, qui a bien sûr des craintes légitimes qu'il faut apaiser. Et ce que fait souvent le gouvernement, ce que font les politiques, c'est d'attiser ses peurs de jeter de l'huile sur le feu, alors que la population est accueillante, et si on calme les peurs, est prête à accueillir, et elle le fait. On a, nous, des milliers de témoignages absolument magnifiques de très très belles rencontres entre des gens qui se découvrent et qui s'enrichissent mutuellement.
Votre rapport, Véronique Fayet, fait donc un focus sur ces personnes étrangères qui viennent en France, mais pour l'ensemble de la population, est-ce que vous voyez cette pauvreté évoluer? Est-ce que la précarité change de visage en France?
Alors, ce qui nous inquiète, c'est que la pauvreté ne recule pas, elle s'installe en France, elle touche beaucoup les familles. Alors, les familles étrangères, bien sûr, et puis on voit même des familles étrangères à la rue, mais bien sûr, les familles françaises. Donc, le fait d'avoir des enfants est un facteur de fragilité. Elle touche beaucoup de femmes aussi. Alors, ce sont, 4 sur 10, ce sont des femmes seules avec des enfants. On trouve à nouveau la question des enfants qui fragilise les familles, mais aussi, 3 femmes sur 10 sont des femmes de plus de 60 ans. Ça veut dire qu'arrivé à un certain âge, des femmes qui sont seules, divorcées ou séparées ou célibataires, avec des toutes petites retraites et donc en situation de précarité et de fragilité. Donc oui, les choses bougent un petit peu, la pauvreté vieillit un petit peu et touche plus les femmes et notamment les femmes avec enfants.
Et ce qui est marquant aussi, c'est que vous dites que c'est une population de plus en plus diplômée et que certains même sont en CDI et viennent quand même frapper à votre porte.
Oui, il y a quand même 16% des adultes qui travaillent et qui fréquentent le Secours catholique très régulièrement. Voilà, alors il y a aussi tous ceux qui ont du travail mais précaire, quelques heures par semaine, et justement une de nos inquiétudes, c'est que la réforme de l'assurance chômage va encore fragiliser, je pense, ces populations et risque de faire basculer un certain nombre de personnes qui bénéficiaient des allocations chômage jusqu'à présent dans les minima sociaux quand ils y ont droit. Ce qui est donc problématique pour les jeunes de moins de 25 ans, qui travaillent un peu, touchent un petit peu d'allocation. Avec la réforme, ils risquent de se retrouver sans ressources.
Et puis revient aussi, ça c'est régulier, la question permanente du logement. Là aussi, par exemple, la baisse des appels, vous l'avez constaté, ça n'a rien arrangé?
Oui, alors déjà, on a une personne sur 3 qui est en logement instable, dans des squats, dans des caravanes, des hôtels. C'est en augmentation, ça a augmenté 10% en 10 ans. Et dans ceux qui sont logés, qui ont la chance d'avoir un logement, il y en a quand même 4 sur 10 qui ont des problèmes d'impayés de loyer, d'impayés d'énergie, parce qu'ils n'arrivent plus à joindre les deux bouts, parce que l'électricité a beaucoup augmenté, alors que les APL n'augmentent pas, voire ont diminué. Donc le budget devient de plus en plus difficile à boucler.
Une dernière question à Véronique Fayet. Il y a un peu plus d'un an, le gouvernement a annoncé un plan pauvreté. Ça a changé quelque chose ?
Alors pas grand-chose, non, et même les études qui ont été faites par des instituts très sérieux montrent que dans les 2 dernières années, les 10% les plus pauvres ont perdu du pouvoir d'achat, alors que l'ensemble de la population, par différentes mesures fiscales, a gagné un peu de pouvoir d'achat. Les plus pauvres ont perdu du pouvoir d'achat. Donc on a une stratégie pauvreté qui en soi n'est pas mauvaise, qui avance à tout petit pas, mais qui avance, mais qui est largement insuffisante et qui ne compense pas des politiques structurelles, fiscales, des politiques d'aide aux chômeurs, des politiques du logement qui sont largement insuffisantes.
Véronique Fayet, présidente du Secours catholique, et vous publiez aujourd'hui votre rapport annuel sur la pauvreté. Vous étiez l'invité du 5-7.